Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
C'est un fait. Le basketball et la NBA, son légendaire championnat, se sont largement mondialisés depuis une vingtaine d'années. Le grec Giannis Antetokounmpo, le serbe Nikola Jokic, le slovène Luka Doncic, le canadien Shai Gilgeous-Alexander, tous ces cadors de NBA ont imposé une réalité. Les Américains ne sont plus les seuls prophètes de la balle orange, y compris dans leur propre pays. Et dans cela, les tricolores ont également leur carte à jouer. Encore sous-représenté dans les médias français par rapport au football et au rugby, le basket est devenu le quatrième sport comptant le plus de licenciés, si on excepte les presque 6 millions d'inscrits dans les salles de fitness. Si le football continue de truster plus de 2,1 millions de licenciés dans l'Hexagone, la balle orange s'est imposée comme le second sport collectif. Avec plus de 670 000 pratiquants, l'écart s'est grandement creusé avec le handball, sixième sport français et troisième collectif, comptant un peu plus de 450 000 licenciés. Une dynamique qui se retrouve au plus haut niveau. 14 tricolores étaient sur la ligne de départ de la saison 2023-2024 de NBA, ce qui en fait le plus gros contingent derrière les Américains et les Canadiens. Surtout, l'Hexagone peut se targuer d'avoir trusté la première place des deux dernières drafts, ces événements incontournables permettant de faire entrer 60 nouveaux jeunes joueurs dans la Ligue américaine chaque année. Lors de cet été 2024, les Français Zachary Rizaché et Alexandre Sarr ont été choisis aux deux premières places. Du jamais vu pour un pays autre que les États-Unis, et une confirmation du phénomène planétaire que le grand public a pu observer l'an passé. Victor Wembanyama, Wemby pour les intimes, premier Français de l'histoire sélectionné à la première place d'une draft. Et pour lui, il n'y avait absolument aucun doute. Ses 2m24 de hauteur, ses 2m45 d'envergure, et bien plus encore. Sa mobilité incomparable pour une telle taille, sa technique, son intelligence de jeu, son hygiène de vie, un potentiel offensif et défensif tellement incroyable que les experts du basket lui prédisent un destin comparable à celui des plus grandes légendes de ce sport. Dans la droite lignée des Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan ou encore LeBron James. Mais en attendant cette hypothétique carrière, le jeune basketteur de 20 ans dispute cet été sa première compétition internationale avec l'équipe de France A. D'abord au stade Pierre-Mauroy de Lille pour le premier tour, avant d'amorcer la phase finale à Paris-Bercy. Et avec tous ces éléments cités précédemment, l'ambition est de rigueur pour un groupe qui disputera ses Jeux Olympiques à la maison. Sur le papier, l'effectif fait partie des plus armés dans le secteur intérieur, c'est-à-dire la zone des joueurs de plus grande taille et qui jouent proche du panier. En plus de Wembanyama, l'équipe de France peut compter sur sa tour de contrôle défensive. Rudy Gobert, trois fois All-Star. Le pivot des Minnesota Timberwolves sort d'une de ses meilleures saisons en ayant été nommé meilleur défenseur de NBA pour la quatrième fois de sa carrière. Derrière, Gershon Yabusele et Mathias Lessor font partie des meilleurs joueurs d'Euroleague, la compétition majeure de clubs en Europe. Le secteur extérieur ne bénéficie malheureusement pas des mêmes garanties. Les meneurs de jeu ne sont clairement pas les plus talentueux et créatifs du monde, mais ils sont tous reconnus comme de forts défenseurs. Ils ont d'ailleurs été choisis pour cela par le sélectionneur Vincent Collet. Parmi les cadres de l'équipe de France, l'arrière-scoreur Evan Fournier, 31 ans, doit regagner sa confiance après avoir été laissé de côté pendant plus d'un an dans son ancienne équipe de New York. Ses 12 années passées en NBA font de lui un élément dont Vincent Collet ne veut pas se passer. Enfin, dans cette équipe, l'expérience du capitaine Nicolas Batum et du magicien Nando De Colo, respectivement âgés de 35 et 37 ans, est attendue. Même si le poids des années se fait sentir dans leur niveau de jeu respectif, Nicolas Batum restera aux yeux du grand public celui qui a effectué le contre ultime en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo contre la Slovénie à la toute dernière seconde. Si les ambitions sont importantes, les Jeux Olympiques ont pourtant réservé des fortunes contrastées aux tricolores au cours de leur histoire. Ils n'ont notamment pas souri à la fameuse génération de Tony Parker. La France n'a engrangé que 2 médailles d'argent, à Sydney en 2000 et à Tokyo lors des dernières Olympiades en 2021. C'est après de larges victoires contre des équipes diminuées de la Turquie et de l'Allemagne, et 2 défaites à domicile face à une Allemagne au complet cette fois-ci, et une belle équipe de Serbie, que les Bleus ont posé leur bagage à Orléans. 2 matchs étaient programmés à Comet, le vendredi 19 juillet contre le Canada, et le dimanche 21 juillet face à l'Australie. Et avant cela, les Bleus se sont réacclimatés à la nouvelle salle orléanaise, dans laquelle ils avaient déjà joué l'an passé. L'occasion pour Evan Fournier de revenir dans ce qu'il appelle sa deuxième ville.
Ça a commencé avec mon père qui était à l'USO ici, qui a gagné pas mal de titres en tant qu'entraîneur. Je sais pas s'il était là en tant qu'athlète, je suis pas sûr, faudrait que je lui demande, mais je sais qu'ils ont été champions d'Europe, j'étais là d'ailleurs, quand j'étais dans la salle. Donc voilà, j'ai pas mal traîné ici avec les judokas, j'étais là lors de leur ascension en Pro B aussi. Et j'étais là et il se trouve que ma femme vient d'ici aussi, donc maintenant j'ai la belle famille qui est sur Orléans. J'ai littéralement ma belle-mère qui habite, enfin mes beaux-parents qui habitent à 5 minutes d'ici. Je peux y aller à pied, donc voilà.
Un autre joueur majeur a ses attaches avec Orléans. L'ailier fort du Real Madrid, Gershon Yabusele, dont le petit frère fait partie du centre de formation de l'Orléans Loiret Basket.
C'est toujours un plaisir de venir ici. Rien que déjà l'année dernière, quand on est venu, on a découvert la salle. On était vraiment agréablement surpris. Mais il y avait vraiment une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Ça fait toujours plaisir de venir ici parce qu'il y a aussi ma famille qui peut plus facilement venir voir les matchs. Donc c'est vraiment une fierté de pouvoir porter le maillot d'équipe de France devant ma famille et devant les fans. On a ce rapport-là aussi par rapport à Léon, par rapport à mon petit frère. Donc je sais que même lui serait content de pouvoir venir au match, de pouvoir me voir son grand frère jouer ici justement dans la salle des pros, surtout avec le maillot d'équipe de France. Donc c'est un rapport très particulier, mais on a vraiment des bonnes connexions avec Orléans.
Un entraînement était ouvert en partie à la presse le mercredi matin. À Orléans, le groupe entraîné par Vincent Collet devait conclure une phase de préparation au jeu loin d'être convaincante pour l'instant. Contre le Canada et l'Australie, il s'agissait de 2 gros défis face à des prétendants à une médaille, pour ce qui sera peut-être le tournoi olympique le plus relevé de l'histoire. Un tournoi qui sera peut-être aussi le dernier pour le coach français, en poste depuis 2009.
Oui, c'est forcément une compétition hors norme. Voilà, c'est déjà les Jeux, et en plus chez nous, donc c'est une opportunité incroyable. J'attends ça avec impatience, avec excitation. Mais
vous dites que c'est peut-être votre dernière compétition.
Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et puis même au-delà de ça, même si ce n'était pas le cas, ça reste quand même la compétition ultime, quoi, parce que c'est les Jeux et chez nous. Donc c'est vrai, c'est valable pour le staff comme pour les joueurs. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a là. C'est une opportunité, un privilège de vivre ça qu'on peut à peine imaginer parce que les générations précédentes n'ont pas pu le vivre et puis les suivantes non plus. Donc c'est vraiment, ça tombe sur nous, donc c'est un bonheur. Maintenant, il faut qu'on soit capable, malgré ça, de les préparer le mieux possible. Et pour ça, il faut faire abstraction de tout ce qu'il peut y avoir autour, des paillettes, de la mauvaise excitation qui pourrait venir du fait que ça soit les Jeux à Paris. Il faut qu'on se prépare le mieux possible. Et ça veut dire que ne pas simplement voir ce qui être concentré sur ce qu'on doit faire pour les réussir. Parce qu'en fait, pour que ça soit ce dont on rêve, ce qu'il faut, c'est réussir. C'est pas simplement c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question pour l'instant, même si je suis parfaitement conscient de ce que ça représente. Mais en fait, ce qui est important, c'est la façon dont on va performer dans ces jeux. Et pour l'instant, en fait, le focus, il est que là-dessus, quoi.
Un contexte à domicile qui a aussi amené le coach à serrer un peu la vis dans son mode de management.
On a essayé de durcir le cadre. Voilà, dans lequel on met des deux côtés, que ce soit pour la vie quotidienne, mais aussi pour le jeu, parce que cette rigueur, c'est aussi une façon de pouvoir mieux appréhender, anticiper tous les problèmes qui vont pas manquer de survenir, aussi par rapport au fait que les jeux soient en France. Voilà, tout le monde sait que ça crée des attentes supplémentaires, une pression, et il faut que le groupe soit soit très fort en interne pour qu'on puisse mieux, on va dire, affronter ce climat qui est un peu différent de si on faisait les Jeux comme la dernière fois à Tokyo et en plus dans une bulle où c'était plus facile d'être fort en interne que là où c'est facile de trouver des pressions externes qui perturbent, on va dire, un peu notre vie, quoi.
Après cet entraînement matinal, les Bleus avaient programmé un scrimmage, c'est-à-dire un petit match d'entraînement contre l'équipe du Canada à huis clos. Cette même sélection canadienne qui devait être affrontée deux jours plus tard. Portée par sa superstar Shai Gilgeous-Alexander et d'autres grands noms de la NBA, l'équipe nord-américaine avait humilié la France de 30 points en Coupe du Monde l'année dernière. De quoi laisser peut-être des traces dans l'esprit du sélectionneur français et de ses joueurs ?
Ah bah forcément, le match en première mi-temps, il était pas, on était déjà pas dans ce qu'on voulait faire, mais malgré tout, on était à deux points, il y avait deux points d'écart, donc tu pouvais pas prévoir qu'on allait se déliter de cette façon-là. Donc ça te laisse forcément une marque plus forte que, qu'une défaite, on va dire. Jamais normal une défaite, mais en tout cas, dans des grandeurs moins considérables. Là, c'était surtout ça qui était. C'est la façon dont on s'est délité en deuxième mi-temps. On n'a pas du tout parlé du match de l'année dernière. C'est pas du tout l'objet. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à ce qu'on a fait vendredi et là où on veut aller. Effectivement, il y a des choses qu'on veut considérablement améliorer.
Ils étaient très durs en défense. Franchement, ils étaient affreux. Et j'avais fini je me rappelle fin de troisième, j'étais sur les rotules physiquement complets. Pas parce que c'est Lou Dort, c'est pour moi top 3 des meilleurs défenseurs de NBA. Brooks, dans son style, est aussi très bon. Et ils étaient sur moi et ils m'ont pas lâché. Et en plus, on avait tellement du mal sur la mise en place. Il y a eu beaucoup d'initiatives individuelles qui prenaient beaucoup d'énergie. Et ça fait partie de notre déroute. Donc, faudra vraiment apprendre de ce qui s'est passé, quoi.
On sait qu'ils vont être agressifs. Si on ne le sait pas, c'est qu'on n'a pas été là au match. Donc forcément, on sait qu'ils vont être hyper agressifs. Leur équipe, ils ont rajouté encore deux gros éléments. Donc on sait que c'est une équipe qui va beaucoup courir. C'est une équipe qui joue beaucoup les contre-attaques et qui essaie d'imposer son jeu. Nous, il va falloir qu'on reste dans notre identité qui est la défense, mais aussi qu'on puisse se partager la balle en attaque et qu'on puisse vraiment les attaquer. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, on le sait tous, on l'a en tête, on était présents, on a pris vraiment une gifle sur le premier match de la compétition, qui à mon goût, je pense, a aussi décidé un peu le déroulement de la compétition, mais voilà, on n'a pas forcément parlé, mais je pense qu'on le sait tous. On sait tous que c'est une équipe vraiment à respecter, qu'ils ont une grosse équipe, et que si on les laisse jouer, on prend 30 points.
Des manques qui avaient été constatés au cours de la défaite précédente contre la Serbie, sur le score de 79 à 67.
Au-delà des difficultés offensives que tout le monde peut observer, ce que je pense la plupart des gens ont moins observé, c'est qu'on a beaucoup moins bien défendu que dans les matchs précédents. Voilà, on s'est éloigné aussi de notre identité, justement, et en particulier dans la période où on était plutôt pas mal au score, c'est-à-dire devant, on avait déjà commis beaucoup d'erreurs défensives. En deuxième mi-temps, on a mieux défendu, voilà, on a eu une réaction, ce qui nous a permis de revenir. Et là, c'était plus l'attaque qui pêchait, parce qu'on manquait de continuité, de fluidité, de mouvement. Et donc, c'est surtout ça qu'on voudrait améliorer, avoir plus de solutions offensives par justement la mobilité, être plus rapide aussi dans les prises de décision. On arrête trop souvent la balle, il faut qu'on arrive à avoir plus de fluidité, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est les objectifs du jour.
Auprès de ses joueurs, Vincent Collet a effectivement insisté au cours de cet entraînement orléanais sur l'importance des systèmes tactiques et leur respect. L'identité de l'équipe s'articule autour de deux fondamentaux. Une défense de fer que Vincent Collet souhaite être la meilleure du tournoi et un mouvement constant du ballon. Pour cela, il convient de monter le curseur afin d'arriver fin prêt au JO. Le pivot Rudy Gobert acquiesce.
On n'a pas le choix, on a de gros objectifs et on sait que ça va être une très très grosse compétition et on ne voudrait pas que les choses soient différentes. Donc on a encore 10 jours avant le premier match. Chaque jour va être... J'espère riche en apprentissage et encore une fois, même au fil de la compétition, le 27, j'espère qu'on ne sera pas la même équipe que le 6 août.
Le compte à rebours était donc lancé le vendredi 19 juillet. Dans un comète comptant près de 9000 spectateurs, les Bleus se sont lancés à l'assaut de la forteresse canadienne après un match joué avant en levée de rideau. Une rencontre au cours de laquelle l'Australie a battu sans forcer l'équipe de Porto Rico 90 à 75. Et au cours de laquelle Vincent Collet a dû prendre quelques notes pendant qu'il était installé dans les tribunes. L'événement que tout le monde attendait. Un véritable match de NBA avec sa pelletée de stars s'offrait aux yeux des spectateurs orléanais. L'équipe de France comptait imprimer un rythme défensif intense dès l'entame du match. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Victor Wembanyama écope de deux fautes dès les deux premières minutes. Dans les règles du basket international, un joueur est exclu du parquet lorsqu'il commet cinq fautes au cours du même match. Pour préserver son joueur, le sélectionneur Vincent Collet se voit donc contraint de remplacer sa superstar et de limiter son temps de jeu. Il en est de même pour le meneur de jeu Frank Ntilikina, également sorti prématurément pour deux fautes. Privé de l'immense envergure de Wemby et de son meneur défensif, l'équipe de France patine et laisse passer un grand nombre de paniers. L'absence de Victor Wembanyama, souvent au centre des attaques françaises, enraye la machine offensive qui ne score que 6 petits points en 5 minutes. C'est moins que Shai Gilgeous-Alexander qui en est déjà à 7 points à lui seul et qui ne semble même pas forcé. Heureusement, Gershon Yabusele prend le relais avec Nando De Colo et permet à la France de se rapprocher des Nord-Américains. Avant un panier à la dernière seconde du premier quart-temps inscrit par Kelly Olynyk pour permettre aux Canadiens de mener sur le score de 25 à 19. Wembanyama revient en deuxième quart-temps et subit d'entrée une prise à 3, c'est-à-dire 3 défenseurs adverses qui l'encerclent pour lui bloquer toute solution. Le talent considérable du jeune Français oblige souvent ses adversaires à utiliser plusieurs joueurs pour restreindre ses mouvements. Mais une telle stratégie a ses failles. Elle libère des espaces pour les coéquipiers de Wemby. La taille et la vision du jeu du joueur des San Antonio Spurs font le reste et lui permettent de trouver Bilal Koulibaly pour un panier facile. Le géant de 2m24 continue à martyriser la défense adverse avec deux tirs réussis à 3 points, c'est-à-dire des shoots pris derrière l'arc de cercle situé à 6m75 du panier. Par la suite, la défense canadienne se resserre autour du génie tricolore. Vu du bord du terrain, la pression défensive exercée par Dylan Brooks est incroyable. Les pertes de balles s'enchaînent pour les Bleus qui font pour l'instant un match de traînard, toujours mené au score. À la mi-temps, l'équipe de France est menée 44 à 40. Les Français passent alors la vitesse supérieure au début du troisième quart-temps. Evan Fournier à 3 points et Victor Wembanyama en déséquilibre à mi-distance permettent à la France de reprendre l'avantage pour la première fois depuis la première minute du match. Répit de courte durée, l'arrière canadien RJ Barrett prend le relais et inscrit 5 points en quelques minutes. En fin de troisième quart-temps, les Canadiens mènent 64 à 58. Malgré le scoring efficace de Yabusele, meilleur marqueur français avec 19 points, l'écart se creuse dans le dernier acte. Wembanyama et Gobert sont mis en difficulté dans le secteur du rebond. Le rebond est une statistique comptant le nombre de ballons récupérés après un tir manqué. Un rebond défensif sécurise la possession et permet de contre-attaquer rapidement. Un rebond offensif permet à l'équipe qui attaque de bénéficier d'une seconde chance de marquer. Wembanyama n'aura pris que 7 rebonds au cours de cette partie, 6 pour Gobert. C'est trop peu pour deux joueurs de cette taille. À cela, les pertes de balles se cumulent pour les Français. De l'autre côté, RJ Barrett, auteur de 21 points, fait du dégât dans le camp français. Et son compère, Shai Gilgeous-Alexander, dévoile aux Orléanais pourquoi il est l'un des tout meilleurs joueurs du monde actuellement, en inscrivant 23 points. L'arrière d'Oklahoma plante d'ailleurs un panier à longue distance en sortie de dribble et permet à son équipe de prendre 10 longueurs d'avance. Les Bleus ne rattraperont pas les Canadiens et s'inclinent logiquement sur le score de 85 à 73. Je pense qu'on a joué très dur dès l'entame, réagissait le Canadien RJ Barrett après la rencontre. On a très bien démarré, on a joué ensemble. Bien sûr, la France a une très bonne équipe, alors ils ont mis quelques séries de paniers, mais on est resté fort. On se sent bien, poursuivit Shai Gilgeous-Alexander. On a toujours des choses à améliorer, on aurait pu être plus percutant des deux côtés du terrain, mais c'est toujours agréable de gagner, surtout contre une bonne équipe comme la France. Ils ont de la taille, ils nous obligent à travailler défensivement et offensivement. C'est une équipe que personne ne veut prendre. Du côté français, l'heure n'est pas encore aux discours alarmistes. L'arrière Evan Fournier relativise, même si l'on sent dans son discours une petite pointe de fatalisme. Le pivot Rudy Gobert veut retenir le positif et la progression. L'entraîneur Vincent Collet évoque aussi les progrès, même s'il a bien noté tous les manques de son équipe, entre le manque d'adresse extérieure et les pertes de balles.
Je pense qu'il y a eu de très bonnes choses ce soir. Je pense que ce qui a manqué, c'est qu'on a encore eu par moments du mal à installer notre jeu en attaque. Et ils se sont nourris de ça. Ça leur a donné beaucoup de paniers faciles en contre-attaque. Et derrière, c'est une équipe qui est déjà très talentueuse. Donc si tu leur donnes ces paniers en contre-attaque, ça leur donne de la confiance. Donc j'ai bien aimé notre intensité. J'ai bien aimé. C'était mieux que contre la Serbie. Mais on a encore. On monte en puissance. Et jouer des équipes comme ça, qui sont non seulement très talentueuses, mais en plus très rugueuses, très intenses, et qui ont certains des meilleurs défenseurs au monde sur les ailes. On ne peut pas demander mieux comme préparation pour la compétition.
Ah, je ne suis pas content, je ne vais pas dire que je suis content après un match comme ça. Mais j'ai assez d'expérience pour mettre les choses en perspective tout en ayant la lucidité de savoir ce que j'ai à faire pour pouvoir avancer. On se fait bouger physiquement, ouais. Mais c'est pas de l'orgueil, crois-moi, on essaye. À part aller en muscu et passer en mode Super Saiyan, c'est ce que je viens d'expliquer en fait. C'est sur chacun individuellement faire mieux et se retrouver dans les spots qu'on veut.
Il n'y a pas vraiment à être rassuré, on a confiance en nos forces, on a confiance en qui on sait où on veut aller. Alors on n'est pas là pour avoir une médaille de participation, on est là pour accomplir quelque chose de grand et ça passera par battre des équipes de ce niveau à un moment donné. Donc je dirais, pas besoin d'être rassuré, il faut continuer à évoluer, continuer à progresser. Et la chose positive, c'est que là, je sens que il y a une progression chaque jour et chaque match.
Il y a quand même des progrès. Après, il faut que ces progrès ils soient, comme je le disais, plus constants. Voilà, on a encore des périodes où vraiment c'est pas assez. Et puis surtout, elles peuvent durer. Donc il faut qu'on gagne aussi en sérénité. C'est-à-dire que tu peux avoir deux possessions moins bien négociées, mais pas en enchaîner 3, 4, 5 à la suite, comme ça a été le cas, par exemple, lorsqu'on avait pris l'avantage. Quoi. Et ça, je pense qu'il faut qu'on gagne c'est de la maturité, mais c'est de la sérénité surtout. On n'est pas bête, on sait qu'on vient de perdre 3 fois consécutivement. Donc forcément que ça nourrit des inquiétudes, elles sont légitimes. Mais on ne doit pas malgré tout abandonner, bien au contraire, ça doit nous booster. On sait que la compétition elle commence dans 8 jours et il faudra qu'on soit prêt pour le premier match, voilà, et qu'on avance dans cette compétition. On sait que si on négocie bien le début de notre compétition contre des équipes qui ne sont quand même pas celles qu'on a jouées la semaine dernière et cette semaine, mais qui sont de bonnes équipes, bien sûr, mais malgré tout qu'il faudra qu'on batte, voilà, tout simplement. Les choses peuvent vite évoluer. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on continue à avancer. Il faut garder le cap. Voilà, c'est ce que j'ai dit, je vous répète en fait ce que j'ai dit aux joueurs. Dans ces moments-là, il est facile de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est là qu'il faut qu'on soit solide. Bien sûr, conscient qu'il y a un vrai chantier, encore beaucoup de travail à accomplir. Mais pour l'instant, on est vivant. Et ce qu'il faudra, c'est être en mode combattant. Et pour l'instant, sur ces aspects-là, je trouve que mes gars se comportent plutôt très bien.
Est-ce que le match de dimanche contre l'Australie, la victoire est importante pour la confiance? On sait qu'on regarde beaucoup le contenu, mais là...
Elle l'est, forcément, toi, je l'ai dit aux joueurs. Par contre, je leur ai aussi dit que, malgré tout, si elle n'est pas au rendez-vous, j'ai vu l'Australie comme vous avant un autre match, ça ne sera pas plus, moins difficile. Donc, on doit être prêt à toutes les éventualités, mais on doit se battre comme des chiens pour obtenir cette victoire, malgré tout.
C'est donc 2 jours plus tard, le dimanche 21 juillet, que cette rencontre entre la France et l'Australie se tenait, une fois de plus à Orléans. Avant cela, les Canadiens se sont fait plaisir. Après avoir fait jeu égal dans la première mi-temps, l'équipe de Porto Rico a été dépassée face à l'intensité physique proposée par les coéquipiers de Jamal Murray. Le meneur star des Denver Nuggets, perturbé par une affaire personnelle, est encore en phase de rodage. Loin d'être prêt physiquement, le nouvel atout de la sélection canadienne a étreiné son maillot en France pour seulement 7 petites minutes. C'est cependant le cadet des soucis de l'équipe de France, préoccupé par son propre niveau de jeu. La sélection australienne comprend dans ses rangs de nombreux joueurs expérimentés de NBA, à l'image de Patty Mills, Joe Ingles et Matthew Dellavedova, et quelques jeunes joueurs de talent complètent cet effectif comme Josh Giddey, l'une des révélations de cette saison en NBA. Et dans cette confrontation, Victor Wembanyama ne fait pas les mêmes erreurs. Pas de faute prématurée pour l'intérieur français qui peut soutenir son équipe d'entrée, Reste que les Australiens prennent l'ascendant en début de match grâce à un Patty Mills bouillantissime à longue distance. L'ancien coéquipier de Tony Parker chez les Spurs de San Antonio cumule 15 points sur les 10 premières minutes. En face, Nando Decolo réplique. Un shoot en sortie de dribble de l'ancien meilleur joueur de l'Euroleague permet aux Bleus de virer en tête d'un petit point en fin de premier quart-temps, 28 à 27. Le mano à mano se poursuit entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Le péché mignon des Français se fait à nouveau sentir, des pertes de balles à foison. Mais la balle se révèle aussi glissante pour les Australiens. L'adresse est en revanche au rendez-vous au niveau des tirs, où Wembanyama est au four et au moulin, au scoring, à la passe et au rebond. Le numéro 1 de la draft 2023 est trouvé seul pour un panier à 3 points à une vingtaine de secondes de la mi-temps. La France mène 50 à 44. Au retour des vestiaires, Wemby, encore lui, marque à deux reprises et signe 17 points en autant de minutes. La France trouve aussi des solutions de scoring sur son banc et en deuxième chance, ce qui lui permet de dominer malgré un pourcentage de réussite au tir plus faible que celui des Australiens. Mais les joueurs au maillot vert n'ont pas dit leur dernier mot. Ils s'accrochent jusqu'à ce tir réussi à longue distance par Jack McVeigh au buzzer pour ramener son équipe à égalité, 63 partout. Un match resté serré jusqu'à la fin. Voici le quatrième quart-temps commenté dans les conditions du direct. 63 partout, il reste 10 minutes à jouer. L'occasion pour nous de commenter ce match, cette fin de match pour ce long format pour Radio Campus Orléans avant le départ de l'équipe de France à Lille pour le tournoi olympique. Et première action réussie par les Australiens. Un panier inscrit par le numéro 26, Rhys, pour prendre déjà l'avantage 65 à 63 et un lancer franc en prime puisque une faute a été commise sur lui. Les Français sortent d'une défaite assez lourde contre le Canada lors de la première rencontre du vendredi. Il s'agit désormais de partir sur une note positive avant le tournoi olympique. Donc une victoire ferait, je pense, beaucoup de bien au moral après trois défaites consécutives. Le ballon est entre les mains d'Andrew Albici qui passe à Wembanyama qui est en sortie des trois points. Il décale sur le côté droit pour un tir à 3 points pour ce même Andrew Albici qui réussit à manier à 3 points pour redonner l'avantage à d'un point, 66 à 65 pour l'équipe de France. Josh Giddey qui passe la balle à Mathieu Dellavedova, le meneur expérimenté de cette équipe, gros défenseur malgré son âge qui présente toujours énormément d'activité dans son équipe. Mathieu Dellavedova donc qui a subi une faute. La remise en jeu qui sera effectuée par le jeune Josh Giddey qui joue au sein de l'équipe d'Oklahoma City. Josh Giddey qui s'est révélé au cours de cette saison en tant qu'homme de devoir. Un petit point sur les stats aussi pour noter que Victor Wembanyama, la star de l'équipe de France, est à 17 points en 17 minutes. Grosse activité de sa part, grosse réussite également. Il réussit bien ses tirs à 3 points et il donne beaucoup de fil à retordre à la défense australienne. La défense française qui réussit a intercepté le ballon. Victor Wembanyama qui subit une faute. Une bonne faute des Australiens puisque ça permet d'arrêter le jeu et de remettre la balle en jeu. Les défenseurs seront mis en place. 66 à 65 au bout d'une minute de jeu en quatrième quart-temps. Victor Wembanyama qui a la balle. Toujours en dehors de la raquette, il s'écarte beaucoup, le joueur de 2m24. On comprend parce que il a une grosse capacité à tirer à 3 points, à tirer dans toutes les positions. Sa mobilité est assez impressionnante et extrêmement même impressionnante pour un joueur de sa taille. 2m24, on croirait voir bouger un joueur de 1m95 seulement. La balle est entre les mains de Josh Giddey à présent pour l'équipe d'Australie. Ça décale pour Patty Mills, autre meneur expérimenté. Ça décale encore en corner pour un tir à 3 points manqué par McVeigh. Récupération de la balle par les Français. Andrew Albici qui remonte le ballon. Ça décale encore sur le côté droit. Isaiah Cordinier à présent qui attend de voir des solutions. Un écran qui est proposé par Victor Wembanyama. Pas beaucoup de solutions. La grosse défense des Australiens. Et cette défense qui paye puisque c'est une perte de balle. La passe manquée d'Isaiah Cordinier qui est interceptée par Josh Giddey qui tente de pénétrer le flotteur et le 2+1 en plus de cela. La faute provoquée. Quel joueur! Un remplacement qui est effectué aussi. Nando Decolo qui rentre à la place de Evan Fournier, un joueur expérimenté pour en remplacer un autre. Nando Decolo, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les baskets, Nando Decolo qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français incontestablement. Il a remporté notamment un titre de meilleur joueur d'Euroleague. Il a remporté plusieurs fois cette compétition avec le CSKA Moscou. Alors c'est un match aussi dans lequel on voit beaucoup de pertes de balles, le péché mignon de l'équipe de France. Et ce match ne déroge pas à la règle puisqu'il reste 8 minutes, un peu plus de 8 minutes à jouer et on en est déjà à 17 pertes de balles. Autant vous dire que pour pouvoir réussir quelque chose dans le tournoi olympique, il va falloir peut-être baisser un petit peu ce ratio. Ça serait quand même appréciable. Mathias Le Sor qui a le ballon en dehors de la raquette. Nando De Colo qui tente de pénétrer, il passe par Cordinier, ça ressort. Victor Wembanyama qui est aux prises avec un défenseur, c'est très compliqué. Réussit à trouver Isaiah Cordinier pour un dunk. Cette action était mal embarquée, mais quelle vista de la part de Victor Wembanyama qui a toutes les qualités possibles et imaginables. Il est grand, il est technique, il est intelligent dans le jeu, il sait faire des passes. Et Josh Giddey, oh là, qui refroidit Comet, qui refroidit littéralement la salle en réussissant un 3 points en tête de raquette. Et pour redonner l'avantage à l'équipe d'Australie, 70 à 68, il reste 7 minutes 20 à jouer. Mathias Le Sor, les intérieurs qui ont toujours le ballon à l'extérieur, c'est assez surprenant. Et voilà, encore une perte de balle, Nando De Colo qui avait tenté de trouver Victor Wembanyama, mais les deux hommes ne se sont pas compris et c'est une 18e perte de balle pour les joueurs français. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et c'est dommage parce que les Français n'ont pas besoin de ça, ils avaient pourtant réussi une excellente entame de 3e quart-temps. Et là, finalement, tous ces efforts qui sont un peu réduits à néant pour l'instant. Victor Wembanyama qui réussit à shooter à 3 points, mais c'est raté. Shoot un peu précipité. Et à présent les Australiens qui ont le ballon, Josh Giddey qui nous fait beaucoup de mal, qui tente une passe mais cette fois-ci elle est interceptée. Il y a beaucoup de déchets techniques de la part des deux équipes et là Isaiah Cordinier qui remontait le ballon et qui se fait à nouveau chipper la balle. C'est assez incroyable, on a du mal à y croire. Pourtant on est habitué avec l'équipe de France, ça fait maintenant depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années en compétition que les Bleus de Vincent Collet nous sortent des matchs avec énormément de pertes de balles, mais à chaque fois on a quand même du mal à y croire malgré cette habitude. Un temps mort qui est pris, un retour des 10 acteurs sur le terrain. Après ce temps mort, il reste 6 minutes 40 à jouer, 70 à 68 en faveur des Australiens. Le ballon est entre les mains des joueurs en vert et jaune. Josh Giddey pour un nouveau shoot à 3 points, manqué, le rebond récupéré par Victor Wembanyama, remonté de la balle par Frank Tilikina qui est entré à la place d'Andrew Albisi pendant ce temps mort. Victor Wembanyama qui récupère le ballon, qui rentre à l'intérieur, le ballon pour Mathias Le Sor qui se fait malheureusement gêner, contré même par la défense australienne. C'est très laborieux pour l'instant. Josh Giddey qui pénètre, qui ressort le ballon et c'est encore une fois un ballon perdu, intercepté. La contre-attaque de Victor Wembanyama qui passe le ballon à Frank Ntilikina pour un 2 points facile. Les Français qui reviennent à égalité, 70 partout. Et Victor Wembanyama qui sort, qui va peut-être rentrer sur la toute fin du match lorsqu'on aura besoin de sa pression défensive. Mais en attendant, Vincent Collet le fait souffler pour au moins quelques minutes. Et effectivement, ce sont bien deux lancers francs qui ont été sifflés par l'arbitre pour Josh Giddey. Alors Josh Giddey qui est en train de nous faire une de ses prestations assez impressionnantes. On ne l'avait pas beaucoup vu sur le début du match, mais là, en ce moment, tous les systèmes de l'équipe d'Australie passent par lui. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il perd également beaucoup de ballons. Mais en attendant, il en est à 20 points, juste devant Patty Mills, et c'est 17 points. Les Français qui vont tenter de reprendre l'avantage ou au moins de recoller au score, 72 à 70. Nando De Colo qui est aux prises face à Magné tente un tir à 3 points très compliqué et le rebond est récupéré par Patty Mills qui lance la contre-attaque tout de suite. Patty Mills qui drive, qui shoot à mi-distance, magnifique tir de la part de l'ancien meneur des San Antonio Spurs. Et 74 à 70 pour l'Australie, un nouveau temps mort qui est pris par Vincent Collet. Elle est de retour sur le parquet, 5 minutes 25 à jouer, toujours 74 à 70 pour l'équipe d'Australie. Le ballon entre les mains de Frank Ntilikina. Frank Ntilikina qui tente de driver tout seul, c'est très compliqué tout ça, la défense australienne était bien en place et s'est récupéré pour une contre-attaque très rapide. Patty Mills qui se heurte à la défense française qui remonte le ballon et qui trouve magnifiquement son coéquipier Dyson Daniels pour un panier à 2 points facile, 76 à 70. Ça commence un peu à chauffer pour l'équipe de France qui avait pourtant mené pendant une grande partie de la rencontre et notamment pendant le troisième quart-temps. et désormais on se retrouve à 76-70. Nouvelle perte de balle de l'équipe de France. Non, finalement Tilikina qui se bat et qui le récupère d'extrême justesse. Mathias Le Sort qui fait un move. Oh magnifique, les feintes de l'intérieur de l'Olympiakos. Champion d'Europe avec son équipe, on rappelle, pour la compétition de l'Euroleague, l'équivalent de la Ligue des Champions. Et Mathias Le Sort qui permet donc à l'équipe de France de revenir à 4 points d'écart, 76-72. Il reste 4 minutes 37 à jouer. Et il ressort suite à ce choc provoqué. À mon avis, il a dû se faire un petit peu mal. Et c'est l'occasion de revoir la superstar française, Victor Wembanyama, revenir sur le parquet. Victor Wembanyama, on le rappelle, auteur de 17 points. Vraiment auteur d'un excellent troisième quart-temps où il avait multiplié notamment les shoots à mi-distance et à 3 points. Il a beaucoup progressé sur son jeu en catch and shoot. La balle entre les mains de Patty Mills qui est aux prises avec un gros défenseur en la présence de Frank Ntilikina. Il écarte le jeu sur le côté gauche. Ça combine entre les différents joueurs. Patty Mills qui est aux prises à présent avec eux. Toujours Ntilikina qui remet la balle à l'intérieur. Le gros contre de Victor Wembanyama, magnifique. Et Dyson Daniels qui est obligé de prendre un shoot à 3 points en catastrophe au buzzer. Et c'est complètement raté. Récupération de l'équipe de France suite à cette grosse séquence défensive. Initiée d'abord par l'extérieur, le meneur de jeu, Frank Ntilikina. Et conclue par le duo Victor Wembanyama et Rudy Gobert à l'intérieur pour bloquer toute possibilité de shoot. Frank Ntilikina qui est aux prises face à la grosse défense tout-terrain de Green. Il s'en sort malgré tout, il décale De Colo dans le corner gauche. De Colo qui est pareil aux prises également avec Daniels. Wembanyama toujours à l'extérieur, il sollicite l'écran de Gobert. Une faute qui est provoquée sur le grand joueur de 2m24, on rappelle sa taille. Et donc ça va être à nouveau une balle en possession de la France et on repart sur 14 secondes de possession. Pour rappeler les règles également à nos auditeurs qui ne sont pas aficionados de basket, il faut savoir que à chaque fois qu'une équipe prend la possession du ballon, elle a 24 secondes avant de pouvoir enclencher un shoot. Et lorsque l'on passe en dessous des 14 secondes, si jamais il y a une faute qui est provoquée et qui ne provoque pas de lancer franc, eh bien on repart sur une remise en jeu et 14 secondes de possession pour l'équipe qui a le ballon. Et dans le cas en fait des lancers francs, il faut savoir que les lancers francs sont accordés lorsque une faute est commise sur un joueur qui est en train de shooter, de tirer, ou alors lorsqu'une faute est également commise au bout de la cinquième fois par une même équipe au sein d'un même quart-temps. Voilà, ce sont un peu les règles, les petites subtilités pour savoir si une faute va donner lieu à un lancer franc ou une remise en jeu. Et pendant ce temps-là, une attaque française qui réussit avec le décalage de Nicolas Batum, le capitaine de l'équipe de France, qui réussit un shoot à 3 points et qui permet à l'équipe de France de recoller à seulement un petit point, 76-75. 3 minutes 30 à jouer. Patty Mills face à Ntilikina, comme toujours. Patty Mills qui continue à provoquer, qui ressort le ballon. Ça continue, toujours une très bonne défense pour le coup des Français. Là, on a resserré quand même l'intensité. Oh, quel shoot magnifique de Patty Mills. Quel shoot quand même. Alors même que l'équipe de France avait tout fait pour rendre la tâche la plus difficile possible à l'Australie. Et Patty Mills qui, dans un trou de souris, réussit quand même à shooter à mi-distance. 78-75 pour l'Australie. Gobert qui est à l'extérieur. Alors, on a un peu de mal quand même à comprendre pourquoi est-ce qu'il sollicite le ballon à l'extérieur alors que sa place devrait plutôt être sous le cercle, mais l'attaque française a quand même porté ses fruits. C'est Frank Ntilikina qui a marqué un nouveau panier et qui permet à l'équipe de France de recoller à égalité. 78 partout, 2 minutes 46 à jouer. Et pendant ce temps-là, l'attaque australienne a donné lieu. Alors je ne sais pas exactement si c'est une faute ou une remise en jeu, mais quoi qu'il en soit, la balle est toujours entre les mains des joueurs verts pendant que le corps arbitral est en train de se consulter. Et il y a une petite coupure au sein de ce match avec un challenge qui a été demandé par l'équipe de France après un shoot à 3 points réussi par les Australiens. Et après visionnage de la vidéo, les arbitres ont décidé d'accorder ce panier à 3 points. On est donc à 81-78 à 2 minutes 35 de la fin. La balle entre les mains de Victor Wembanyama qui tente le alley-oop. Magnifique relation. Magnifique relation avec Rudy Gobert. Victor Wembanyama qui a pénétré, qui a fait une passe en hauteur pour son compère Rudy Gobert qui a
conclut ce que l'on appelle un alley-oop, c'est-à-dire attraper le ballon en l'air et le dunker immédiatement alors qu'on est encore en suspension dans les airs. 81 à 80 désormais, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. Josh Giddey qui a le ballon face à Nando De Colo, il y a l'avantage de taille pour Giddey, mais le shoot est raté. Alors c'est assez incroyable, Josh Giddey qui avait quand même réussi quasiment à récupérer son propre rebond, mais la balle qui est finalement sortie, la récupération entre les mains de l'équipe de France, ça va être extrêmement tendu, extrêmement serré face à cette équipe australienne qui a battu l'équipe de Porto Rico lors du premier match contre ce vendredi, le premier match à Orléans à Comet. Il serait de bon ton pour les joueurs français de remporter ce match contre une vaillante équipe australienne. Si on veut nourrir des chances pour ce tournoi olympique, il va falloir quand même prouver qu'on est capable d'affronter les yeux dans les yeux les grosses nations dans ce tournoi qui promet d'être le plus relevé peut-être de l'histoire des tournois olympiques de basket. Victor Wembanyama qui a le ballon, Hall qui est à deux doigts de perdre la balle et qui perd le ballon face à la pression défensive de Kay.
Et vous l'avez compris, cette possession-là, il va falloir prendre la
place. Et la récupération entre les mains des joueurs australiens. 1 minute 40, 81 à 80. Tandis que Frank Ntilikina qui revient sur le terrain. Patty Mills face à Frank Ntilikina, l'un des duels de cette partie. Et il y a eu un switch. Victor Wembanyama qui a réussi à défendre, à contester le shoot de Patty Mills. Récupération de la balle par les Français, toujours un point d'écart entre les deux équipes alors qu'on entre bientôt dans la dernière minute de jeu. Il reste 1 minute 14 pour être précis. Rudy Gobert qui est quand même loin de la raquette, qui sert de relais pour un shoot à 3 points compliqué de Frank Ntilikina. Le rebond récupéré par De Colo, mais ça se bat sous la raquette et les Australiens qui réussissent miraculeusement à récupérer ce ballon extrêmement important, ballon quasiment vital. Josh Giddey qui remonte le ballon, c'est extrêmement chaud, extrêmement tendu. Josh Giddey qui provoque, qui est face à Frank Ntilikina, qui réussit à le contourner. La défense de Rudy Gobert qui réussit à le contester. Le shoot est raté. 42 secondes à jouer, 81 à 80 entre les deux équipes. Frank Ntilikina qui remonte le ballon. C'est extrêmement tendu, vous l'entendez dans la salle Comet. Et la pression défensive des Australiens et de Kai pour être précis, qui provoque une faute sur Frank Ntilikina. Alors, est-ce que nous sommes dans la pénalité ? Oui, nous sommes dans la pénalité puisqu'il y aura 2 lancers francs qui seront accordés au meneur de jeu de l'équipe de France. Les 2 lancers francs sont donc réussis par le meneur de jeu, 82 à 81. Il reste 27 secondes à jouer. On entre vraiment dans le money time. Patty Mills avec le ballon face à la défense de Victor Wembanyama qui est plus grand et qui réussit à contester grâce à ses longs bras le shoot de l'ancien meneur des San Antonio Spurs, mais la balle est rendue à l'équipe australienne alors que ça s'époumonne sur les 2 bancs de touche et notamment l'entraîneur australien qui semble particulièrement blanc. Tendu, l'arbitre qui lui demande de se calmer parce que la balle est bien rendue à ses joueurs, donc il n'y a pas de raison pour lui de contester ou d'être en colère. Nouvelle possibilité pour les Australiens, il reste 12 secondes à jouer, c'est extrêmement tendu. Et ça sera peut-être la dernière possession à présent. Josh Giddey, et oui, le joueur qui est le plus chaud peut-être de cette équipe australienne qui va tenter de faire le miracle face à la défense de Gobert. La récupération de Wembanyama et la balle qui ressort à nouveau. Et il me semble que c'est encore une dernière possession pour les Australiens alors qu'il reste 2 secondes 5 à jouer. Et un dernier temps mort pour préparer la dernière stratégie offensive en 2 secondes 5. Il va falloir que les Australiens marquent un panier. Ça va être du quitte ou double puisqu'on est à 82-81, c'est simple. Soit les Australiens réussissent à marquer un panier et remportent ce match, soit les Australiens ratent et ce sera la France qui remportera ce dernier match de préparation au forceps. On va dire ça n'aura pas été simple quoi qu'il arrive, donc pas sûr qu'une victoire quand même d'un seul point d'écart soit de nature à éveiller les plus grandes ambitions pour le groupe de Vincent Collet, mais on la prendra toujours après 3 défaites consécutives. Et évidemment tous les supporters de l'équipe de France sont debout dans les tribunes, la tension est à son comble. Alors effectivement on ne joue pas une compétition, on rappelle c'est un match de préparation, il n'y a pas d'enjeu particulier. Mais on sait que aborder une compétition comme les Jeux Olympiques avec une certaine confiance, c'est quand même de nature à pouvoir permettre aux joueurs de s'exprimer de manière libérée et de pouvoir peut-être produire un basket de meilleure qualité. Donc on la prendra volontiers cette victoire. Les acteurs du terrain donc qui reviennent sur le parquet, les Français qui se regroupent, Franck Ntilikina, Nando De Colo, Nicolas Batum, Rudy Gobert et Victor Wembanyama, c'est le 5 qui va décider de l'issue de cette rencontre, qui vont défendre face à cette vaillante équipe australienne. Et il est fort probable que le ballon de la gagne soit donné soit à Josh Giddey ou soit à Patty Mills pour faire la décision. Certainement à Patty Mills. Alors après, ils peuvent également essayer de tromper les défenseurs français en donnant la balle à un joueur auquel on ne s'attend pas forcément. Mais on sait que Patty Mills est fait pour ce genre d'événement. Eh bien non ! Oh là là, c'est pas possible ! C'est incroyable ! Et c'est finalement un panier inscrit par Dyson Daniels. Un joueur que l'on n'attendait absolument pas, qui s'est retrouvé quasiment seul, démarqué sous le panier. La défense française qui n'a pas bien joué le coup, tout simplement, qui s'est peut-être un petit peu trop focalisé justement sur les stars australiennes, et ça a laissé Daniels seul pour mettre un lay-up, mais alors d'une facilité déconcertante. Et c'est comme ça que l'Australie se retrouve soudainement à 83 à 82, et il reste une seconde et un dixième à jouer. À une seconde et un dixième pour créer une stratégie. Alors bon courage messieurs, ça va être extrêmement compliqué, mais pourquoi pas. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que ça ne veut pas. Décidément pour le groupe de Vincent Collet, ça ne veut pas. Et on n'est pas extrêmement optimiste pour la suite de la compétition. Alors après, pour essayer de pondérer un petit peu la situation, on va rappeler aussi la situation de l'année dernière, alors qu'on jouait la Coupe du Monde 2023. Les Français avaient fait une série de matchs de préparation qui s'étaient révélés extrêmement fructueux, avec de grosses victoires à la clé. Et au final, les Français s'étaient fait humilier par l'équipe du Canada et avaient également perdu contre l'équipe de la Lettonie, s'étaient retrouvés éliminés au premier tour. Et on avait critiqué le choix de choisir de prendre des matchs de préparation peut-être un petit peu trop simples. Là, pour le coup, la préparation de l'équipe de France est extrêmement difficile. C'est parti, les acteurs sont de retour, une seconde et un dixième seulement. C'est extrêmement tendu. C'est Nando De Colo qui refait la remise en jeu. Ça va être pour... Ah, ils ont du mal à trouver, c'est Wembanyama qui shoot. Eh ouais, c'est Ave Maria et c'est complètement raté. Le système n'a pas été correctement effectué. Cette dernière possession est complètement ratée. L'équipe de France perd à nouveau. Elle perd son quatrième match de préparation de suite. C'est pas de nature à instaurer la confiance, clairement, pour les Jeux Olympiques. On rappelle l'équipe de France qui jouera son premier match contre l'équipe du Brésil. 83-82, c'est donc le score final de ce match.
Une quatrième défaite de suite, mais cette fois elle s'est jouée à deux possessions offensives et défensives très mal exécutées. Nando De Colo, le papa de cette sélection, veut positiver, comme ses coéquipiers deux jours plus tôt.
C'est correct. Je veux dire, forcément, on voulait la victoire ce soir. Encore une fois, les petits détails font la différence, mais je pense qu'on a essayé de respecter ce qu'on a mis en place. On avait pas mal de choses nouvelles ce soir, donc c'est ça aussi. Il faut voir toute l'ensemble de ce qu'on fait pendant l'entraînement. Là, on a une semaine pour bien restructurer tout ça et la compétition commence. Donc maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Je sais qu'on a une équipe qui a du caractère, qui va se souvenir de ce qui s'est passé l'année dernière et on va faire le maximum pour être prêt dès le premier match et aller le plus loin possible. Il faut qu'on ait confiance en ce qu'on fait, il faut qu'on ait confiance en nos coéquipiers, il faut qu'on ait confiance dans nos systèmes de jeu, c'est un tout. On l'a encore vu ce soir. Je pense que dans l'ensemble, on essaye de trouver encore les automatismes par moment avec des 5 différents, mais ça fait partie d'une prépa. Il nous reste une petite semaine devant nous pour bien travailler, pour bien refixer les choses et puis d'être conscient qu'on évolue au jour le jour. On sait où la balle doit aller, après c'est trouver cette alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. On le voit sur les dernières possessions où je pense que ce soir c'est simple, dès qu'on a réussi à faire des choses collectivement, on a eu de bons résultats. Dès qu'on est retombé un peu dans la facilité, ça a été plus compliqué. Donc maintenant à nous d'en prendre conscience et de continuer d'avancer. On peut éviter la dernière action, bien sûr, on peut éviter des pertes de balles faciles, mais ça fait partie du jeu, donc à nous d'apprendre de tout ça. Je pense que chacun doit continuer de trouver sa place. Il faut qu'on ait confiance dans les 12 joueurs qui sont là, parce qu'on est 12 joueurs qui ont du talent, qui savent jouer au basket, mais il faut qu'on ait confiance entre nous, et c'est les choses qu'on va se dire dans les jours à venir, parce qu'il y en a besoin de cette communication.
Au sortir de ce match, Nicolas Batum a quant à lui insisté sur la distinction à faire entre matchs amicaux et véritable compétition. Le capitaine de l'équipe de France avoue même qu'il en avait assez de la phase préparatoire et qu'il était heureux qu'elle se termine.
On commence les choses sérieuses, c'est peut-être là on est les meilleurs. Regarde, on est dans un contraste différent de l'année dernière. L'année dernière, tout roulait bien et voilà, il y a 3 ans, on était catastrophique en prépa, ça a bien fini. Donc la préparation en équipe de France, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai jamais rien tiré entre guillemets dans la préparation. Donc voilà, c'est comment on va commencer, surtout comment on va faire ces 5 premiers 5 jours. Dans quel état d'esprit on va les aborder et comment on va être prêt pour le Brésil. Voilà, c'est ce que je répète au groupe, moi je m'en fiche, la projection, faut pas se projeter maintenant. Les Jeux Olympiques, c'est tellement particulier. Concentration sur le Brésil, prenez des matchs les uns après les autres, on verra ce qui se passera par la suite. C'est une très très bonne chose qui s'est passée, donc voilà, on sait qu'on n'a pas rassuré par le grand public, maintenant c'est à nous de rester serrés dans notre bulle. Hein, on est tranquille par rapport à ça. On va faire attention à ce qui se passe à l'extérieur parce que voilà, on a moi, par certainement l'expérience des années précédentes où voilà, on sait ce qui peut se passer par rapport à la prépa. Et voilà, non, ça, on a montré des mauvaises choses, inquiétantes, on a quand même montré des choses en restant dans les matchs quand même. On était encore dans les matchs à chaque fois, on a des chances de gagner chaque match qu'on a joué à chaque fois, donc contre des grosses équipes. Donc maintenant c'est comment on aborde les 5 prochains jours, comment on se prépare pour le Brésil. Et il faut être prêt maintenant pour le 27 juillet. On a zéro confiance, on a zéro acquis, donc des fois du coup on redouble de concentration. C'est peut-être qu'il va falloir faire des matchs, le premier match contre une équipe qui va être vraiment. En voulant en découdre contre nous, donc c'est voilà, à nous de d'être prêts.
Au sortir de cette phase de préparation conclue à Orléans, le bilan est de 2 victoires et de 4 défaites consécutives. L'occasion pour le sélectionneur Vincent Collet de tirer ses conclusions et ses attentes pour ces Jeux Olympiques.
Et on est forcément déçu et on est bien conscient qu'on vient de perdre 4 fois consécutivement, même si c'est contre des équipes très fortes et qui sont candidates au podium. Mais malgré tout, c'est sûr qu'on aurait aimé prendre ce dernier match pour justement prendre un bol d'oxygène au niveau de la confiance. Maintenant, on savait que c'était une éventualité qui pouvait arriver, donc on est prêt à continuer à bosser. On n'oublie pas que la compétition n'a pas commencé et qu'elle est toujours différente de la préparation. Donc voilà, on n'est pas... On n'est forcément pas content que cette série soit arrivée, mais maintenant on n'a pas d'autre alternative de toute façon d'avancer et de continuer à progresser. On l'a fait malgré tout ce soir par rapport au match de vendredi. Voilà. Dans le contenu, il y a des choses qui s'améliorent. Après, il y en a d'autres qui malheureusement ne s'améliorent pas assez, mais c'est comme ça. Voilà, on fait avec nos moyens. Quand tu joues à un niveau d'intensité moyen, tu n'es pas sûr de pouvoir t'adapter à un niveau d'intensité plus fort. Là, ça ne sera pas plus fort. Peut-être ça sera pareil, mais au moins on est préparé. Voilà, je pense que c'est très bon pour nous. Et dans nos problèmes offensifs, c'est quand même la raison principale. Il faut ne pas négliger. Quand on a eu contre nous une défense, on va dire, moyenne, l'Allemagne au premier match, je ne parle même pas de la Turquie, hein, qui était un faux match, mais l'Allemagne au premier match où il manquait des joueurs et donc qui n'avait pas les moyens d'être dur en défense, on avait marqué 90 points, par exemple, mais c'était en trompe-l'œil. Voilà, c'est pas le niveau qu'on va jouer. Maintenant, on verra si nos premiers adversaires sont dans l'intensité capables de faire ce que le Canada en particulier, mais même l'Australie, peuvent faire. Voilà. L'Australie, elle est plus forte que l'an passé. Donc, voilà, Daniels aujourd'hui a pris de l'épaisseur. Ils ont un ou deux joueurs qui sont de retour. C'est aussi une belle, on va dire, une belle forte équipe. Globalement, je trouve que ce match est plutôt encourageant. Donc c'est pour ça que je regrette de ne pas l'avoir gagné, parce que ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais dans le vestiaire, j'ai quand même fait prendre conscience aux joueurs que la première chose, quand même, c'est la satisfaction d'avoir été bien meilleur et d'être, on va dire, plus cohérent dans ce qu'on a fait, en particulier en attaque, effectivement, avec des joueurs qui pointent le bout du nez. Ce que je disais sur le secteur, c'était plus sur l'irrégularité. Voilà. Et pour qu'une équipe soit plus sereine, toi, quand tu sais que tu vas avoir 2-3 joueurs sur lesquels tu vas toujours pouvoir t'appuyer, et puis après, si de temps en temps, tu as une bonne surprise, c'est quand même plus facile. Mais bon, pour l'instant, c'est pas comme ça, donc il faut qu'on fasse avec. Défensivement, globalement, c'est en place. Voilà, là, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté, parce que Victor est très mobile, et donc il peut très bien défendre en 4. Mais en attaque, c'est parfois moins efficace. Voilà, ça dépend des moments, mais c'est un peu comme pour le reste, c'est-à-dire qu'on est versatile et donc il faut qu'on l'utilise, mais pas de façon systématique. Voilà, et on voit surtout que on a la chance. Pour le coup, autant c'est pas le cas à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a une vraie régularité. Et avec Gershon et Mathias, on a également deux joueurs d'impact. Donc il faut qu'on trouve les associations qui sont pour nous les plus intéressantes à différents moments du match. C'est pas forcément les mêmes. Voilà, ça dépend aussi des match-up qu'on nous oppose. Comment est-ce qu'on peut les sanctionner? Et il faut qu'on progresse dans la capacité justement à sanctionner en fonction des match-up proposés. Voilà, par exemple, ce qu'on n'a pas été capable de faire contre le Canada, où Victor était marqué par Brooks, bon, qui est un défenseur phénoménal à la périphérie, parce qu'il est très costaud, il va très vite, donc Victor pouvait difficilement prendre le dessus à 7 ou 8 mètres du panier, mais on n'a pas été, en revanche, capable d'amener autant la balle qu'on voulait près du cercle, parce que là, même s'il est bon défenseur, quand tu fais qu'un mètre 96 ou 17 contre Victor, près du panier normalement, mais le plus dur c'est d'arriver à lui amener la balle. Et pour l'instant, on ne sait pas encore le faire suffisamment bien. Mais on va bosser.
Il est désormais l'heure pour l'équipe de France masculine d'entrer dans ces Jeux Olympiques. La première phase de groupe qui se déroulera à Lille verra les hommes de Vincent Collet affronter successivement le Brésil, le Japon et l'Allemagne. Leur premier match contre le Brésil est programmé pour ce samedi 27 juillet à 17h15. Contrairement à leurs homologues masculins, les joueuses de l'équipe de France féminine partent quant à elles avec le plein de confiance, avec 5 victoires en autant de rencontres. Emmenées par des individualités aussi talentueuses que Marine Johannes, Gabby Williams ou encore Iliana Rupert, les femmes entraînées par Jean-Aimé Toupane sont pleines d'ambition. Elles ont écrasé à 2 reprises la Finlande avant 3 victoires convaincantes face à la Serbie, au Japon et à la Chine. Dans leur propre phase de groupe, elles seront aux prises avec le Canada, puis le Nigeria et enfin l'Australie. Leur premier match face au Canada est prévu le lundi 29 juillet à 17h15. Allez les Bleus!
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. Rédac Pop de Radio Campus Orléans.